BFM Business présente Check-up Santé avec Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 16e saison de Check-up Santé sur BFM Business. Nous sommes en France, historiquement, le pays des grandes découvertes, des grands scientifiques. Et pourtant, nous perdons du terrain sur les essais cliniques, l'accès à l'innovation thérapeutique stagne et les patients, bien sûr, en subissent des conséquences. D'où l'idée de la nouvelle coalition GeneR qui s'est fixée comme mission de consulter les principaux acteurs de l'écosystème santé pour en sortir des recommandations. Son président, le professeur Philippe Berta, va nous en dire plus. C'est le troublion des économistes santé qui n'a pas peur de dire ses quatre vérités. Enseignant à l'ESCP et à Dauphine, président de l'Institut Santé, c'est Frédéric Bizard et on est heureux de l'avoir sur notre plateau. Enfin, il tape l'incruste régulièrement dans l'émission, Rémi Teston, grand Manitou de la e-santé, patron de Buzz e-santé, qui va oser nous dévoiler qu'une entreprise d'intelligence artificielle va développer ses propres médicaments. Check-up Santé, c'est parti.
Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Philippe Berta, bonjour.
Bonjour à vous.
Ravi de vous retrouver sur le plateau de
moi-même aussi.
Check-up Santé. Vous êtes généticien, vous êtes ancien directeur de recherche à l'INSERM, professeur des universités, ancien député.
C'est vrai aussi.
On va pas dire quel parti, on veut pas savoir. Et vous présidez GeneR. Vous trouvez qu'on peut vraiment mieux faire pour accélérer l'accès des patients aux innovations thérapeutiques? Il y a un problème.
Je crois que c'est malheureusement le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que la France est sur le reculoir à peu près sur tous les items qui font cette chaîne de valeur, la recherche. Un rapport récent le démontre. Le nombre d'essais cliniques développés en France, on s'est effondré. L'accès à ces innovations et donc derrière, bien sûr, l'industrie, la création de richesses et de valeur pour notre pays.
D'où la naissance de GeneR.
D'où la naissance de GeneR.
Alors justement, comment est née cette coalition? C'est une coalition.
C'est une coalition que j'appellerais même une coalition sociétale. C'est-à-dire que le principe en est le suivant. C'est que, en tant que parlementaire, j'avais observé que chacun travaillait un petit peu dans sa ligne de nage. Les industriels d'un côté, les chercheurs, les cliniciens, les patients évidemment.
Un monde siloté.
Un monde totalement siloté et que la force vient toujours du nombre, à un moment ou à un autre, surtout quand on s'adresse aux politiques. Donc l'idée était de se dire, on va tous travailler ensemble. Les patients, bien sûr, et ce sont les patients qui sont majoritaires dans la coalition GeneR, à travers un certain nombre d'associations, les industriels, les acteurs de la biotech, de la medtech, mais aussi bien sûr les acteurs de la pharmaceutique, les collègues chercheurs, des académiciens, et des cliniciens, et des acteurs plus globalement du développement économique dans ce secteur.
Donc tout ça, ça fait 13 membres fondateurs.
13 membres fondateurs.
Les citer.
Je ne vais pas les citer parce qu'ils seraient trop nombreux, mais 8 associations de patients, 5 industriels, et puis derrière, un conseil scientifique de très haute tenue, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une trentaine de membres.
Moi, je peux les citer.
Oui, vous pouvez. Vous pouvez.
Pourquoi pas? Donc c'est Annette, c'est ARSALA, c'est Serhomme, c'est Fondation Arcade, c'est Imagine for Margot, qui vient d'ailleurs assez souvent dans le Check-up Santé, Iris, Laurette Fugain et Patients en Réseau.
C'est cela, tout à fait. D'autres n'ont été que auditionnés. C'est-à-dire que ce conseil scientifique, donc, derrière, on a aussi une présidence, un parrainage que je voudrais mentionner.
Je vous recoupe une deuxième.
Parce que c'est... vous avez insisté sur le parrain.
Oui, vous avez... Non, bien sûr. Oui. Mais vous avez parlé des industriels, même, de la pharma. C'est donc Biogen, Chiesi, Daiichi Sankyo, Pfizer et Servier.
Oui, japonais, européen, français et américain. C'était un peu l'idée. Et surtout d'en limiter le nombre, puisque d'autres sont venus taper
à la porte. Et un comité scientifique de niveau...
De très, 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 très haut niveau. Ouais. J'ai eu la bonne surprise de voir que tous ont dit OK. Un parrainage, ben, pourquoi pas un prix Nobel? Et pourquoi pas un prix Nobel de l'Académie française, donc le professeur Jules Hoffmann. Mm-hmm. Et puis derrière, le travail qui a été réalisé depuis janvier, qui s'est terminé début juillet, sans cette audition ou sans cette consultation. Mm-hmm. Le mot audition, c'est ma vie d'avant, mais c'est consultation. Et de ces consultations.
Alors justement, c'est la mission, c'est ça, de cette coalition?
La mission, ensuite, c'est donc effectivement interviewer, interroger des acteurs de toute cette filière, essayer de faire en sorte que ces acteurs aussi, parce que quand on parle d'industriels d'un côté, des représentants de patients de l'autre, il faut que tout le monde dilue un peu son message pour que se retrouver à la fin sur un message commun. C'est ce qui a été obtenu, qui sera dévoilé le 16 septembre à l'Académie de médecine.
Et quelques jours.
Dans quelques jours, dans une semaine pratiquement, oui, effectivement,
même
jour
pas.
Pour jour, même pas. Et l'idée, c'était effectivement, derrière cette coalition, travailler et détecter tous nos points de faiblesse, enfin tous, pas tous, en tout cas les majeurs, et derrière ces points de faiblesse, proposer une autre façon de faire, une autre façon de travailler dans ce pays, parce que les résultats sont très, très, très inquiétants. Ouais. Je vais prendre un seul exemple, les essais cliniques. Il y a quoi ? Il y a 10 ans ? Même pas, nous étions premier pays européen pour les essais cliniques. C'est important, les essais cliniques. C'est-à-dire, ça nous permet, vous et moi, lorsque vous avez une pathologie sévère, d'accéder à une innovation, de tester une innovation qui souvent est la dernière chance. Ah oui. Bon, moins vous avez d'essais cliniques, cette dernière chance, elle n'existe plus.
Alors qu'il y a des pays comme la Chine qui prennent de plus en plus de place.
Oui, mais même, je vais rester même européen. L'Espagne, aujourd'hui, est devenue numéro 1. À l'Allemagne, numéro 2, numéro 3, UK, numéro 4, l'Italie, et la France n'est plus que cinquième. Et c'est très important parce que d'abord, ça fait rentrer aussi beaucoup d'argent dans nos hôpitaux qui, me semble-t-il, en ont besoin. Ça donne aussi de la motivation à nos collègues hospitaliers, BUPH, MCUPH, évidemment. Et puis, il faut pas trahir le secret. Quand un grand laboratoire décide de faire un essai clinique dans un pays donné, c'est généralement dans ce pays que derrière il va négocier le prix du médicament une fois que l'essai clinique sera validé, et c'est donc dans ce pays que les patients auront accès à ce médicament. Donc, les indicateurs sont pas bons, et donc il faut changer de braquet, ça paraît une évidence, et c'est ce que nous allons proposer, bien sûr, à la suite de ce travail.
Alors, c'est vrai que cette coalition est orientée oncologie et maladies rares.
Oui, c'était une volonté de ma part, pour être sincère, parce que c'est le monde que je connais le mieux. J'avais créé ici à Paris, à l'Assemblée, le groupe d'études maladies rares. Je connais bien le monde de l'oncologie et j'ai toujours considéré que c'était les deux secteurs où je les ai toujours appelés un petit peu les avant-gardistes, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés aux problèmes qu'auront toutes les autres disciplines, toutes les autres aires thérapeutiques. Un, le diagnostic, un diagnostic percutant, utilisant la génomique et rapide, et pas 4-5 ans d'errance diagnostique comme on a encore, par exemple, dans les maladies rares. Et puis, si je vais à l'autre extrémité, des traitements qui sont de plus en plus personnalisés. Vous avez dû évoquer ces perspectives, par exemple, en oncologie, de vaccination thérapeutique contre le cancer. C'est un vaccin, un patient. Donc, le modèle économique, complètement à revisiter. Donc, c'est ça qui m'a fait choisir ces deux thèmes, plus le fait que c'est certainement là où nous avons encore nos principaux points de résistance lié à notre histoire. L'oncologie, c'est le plan cancer des années Chirac, dirais-je. On a encore la résurgence avec le biocluster de Paris-Saclay. Et puis, derrière, les maladies rares, on a une structuration territoriale à travers 4 plans successifs qui fait encore sens. Donc, ces endroits où on a encore un petit peu leadership, on les a utilisés, mais il est clair que les propositions auront capacité à rejaillir sur tous les thèmes.
Évidemment. Et concrètement, comment avez-vous mené ces consultations de... Quelles questions avez-vous posé? Depuis combien de temps?
Alors, on s'est donné une heure par auditionné, pas plus, et c'était très timé. Je dois avouer que nous avons bien sûr fait appel, qui ne fait pas appel d'ailleurs à l'intelligence artificielle, pour analyser un peu tous les propos, les mettre...
Mais c'est les questions que j'allais poser.
Mais bien voilà, ça c'est fait. Et les auditionnés, entre guillemets, les consultés, recevaient en amont un format écrit. Et là aussi, moi je vais... Le 16 septembre, tous les remercier à l'Académie de médecine parce qu'ils ont tous joué le jeu. Ils nous ont tous renvoyé et contributions écrites, les Alain Fischer, des Philippe Politi, tout ça. Ils ont joué le jeu. Et bien sûr, ensuite, nous avons enregistré leurs propos avec leur accord et nous en avons fait l'analyse, le résumé. On va déboucher sur un rapport d'un peu plus d'une grosse soixantaine de pages et sur des recommandations, bien sûr, beaucoup plus limitées, puisqu'après, il va falloir aller les vendre, ces préconisations.
Et donc, c'est évidemment le 16 septembre à l'Académie de médecine, c'est bien ça ?
Oui, absolument.
Alors, évidemment, sans divulguer tous les détails...
Non, je ne pourrais pas.
Oui, on peut donner des tendances, on peut...
Non, il y a vraiment, y a vraiment de l'organisationnel lourd sur des questions... moi, je suis plutôt, vous l'avez mentionné, un acteur de l'amont, de la recherche. J'ai été président du groupe recherche pour la Covid pendant les années Covid à l'Assemblée. J'ai bien vu... un défaut déjà majeur d'organisation, c'est-à-dire que nous avons 6 organismes nationaux de recherche, des dizaines d'instituts, des centaines d'équipes hospitalières ou universitaires qui font la recherche en santé.
C'est la dilution.
C'est la dilution, c'est la problématique de l'absence de pilotage. Voilà un exemple. Mais après, bien sûr, on peut pas rester dans un pays où, dans le droit commun, il faille 520 jours pour faire un essai clinique et arriver au marché à partir d'une validation faite par l'Europe. Là où dans le pays voisin, en Allemagne, c'est qu'une cinquantaine de jours. Donc, comment voulez-vous être attractif? Donc voilà, ce sont des exemples, mais il y en aura bien d'autres, évidemment.
Et c'est le bon moment, justement, en pré-présidentiel? C'est choisi ou pas?
Alors, bien sûr que c'est choisi. Ouais. Bien sûr que c'est choisi parce que Si j'ai un collègue bien connu qui avait recherché, entre guillemets, justement, le mot recherche dans l'ensemble des programmes présidentiels de 2022 de premier tour. Le mot recherche, il ne l'a trouvé qu'une seule fois. Mais c'était recherche d'emploi. Donc ça veut dire que ces champs dont nous parlons là, et la santé n'y échappe pas, sont des champs qui sont quasi inexistants dans le débat présidentiel. Ouais. Et il faut absolument faire comprendre que c'est une priorité pour chacun d'entre nous, que c'est aussi une priorité en termes de souveraineté, et pas uniquement bien sûr pour notre santé, mais aussi en termes de souveraineté. Ouais. On voit très bien, outre-Atlantique, ce que le président des États-Unis a tout de suite mis en action, c'est-à-dire acquérir le maximum de la santé. Donc c'est ça qu'on va faire. On va donc bien sûr aller voir, entre guillemets, les écuries présidentielles et leur expliquer. Et puis nous avons mis en place un baromètre très sérieux qui va nous permettre de suivre l'intégration de nos préconisations au sein de leur programme, avec l'évolution de cette intégration au fil de la campagne électorale.
Ouais. Et là, vous êtes optimiste ou vous dites on est en pleine utopie, on a fait pas mal d'essais.
Alors, je reste optimiste par la structure même de la coalition. Mm-hmm. Vous avez parlé, on va reprendre cet exemple, maladie rare, oncologie, c'est 8 millions de patients en France. Mm-hmm. Vous rajoutez les aidants, ça veut dire que finalement, toutes les familles françaises sont concernées. Quand on est politique, qu'on a le souci de l'élection, je ne comprendrais pas et je verrais difficilement comment on met ça sous le tapis.
Parce que ce n'est pas tellement une question de moyens, c'est pas une telle...
Il y a une question de moyens, on le voit bien sur la recherche, j'ai été rapporteur de l'OEP.
D'organisation,
de restructuration. Mais évidemment, et puis c'est aussi, et vous l'avez mentionné, cette capacité à utiliser ces thématiques-là, que ce soit la recherche, que ce soit l'enseignement supérieur, ou que ce soit la santé, pour faire du saupoudrage. On n'a plus les moyens de ce saupoudrage, parce qu'il y a des exigences, ne serait-ce que technologiques, de plateformes, qui font qu'il faut organiser, bien sûr, le territoire, mais il faut aussi concentrer par domaine dans les différentes grandes villes de ce pays.
Eh ben, on attend avec impatience les résultats dans quelques jours, le 16 septembre,
absolument,
à l'Académie de médecine.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Philippe Bertha. Merci beaucoup.
C'était un grand plaisir.
Revenez quand vous voulez. On va à présent accueillir Frédéric Bizard, spécialiste en économie et protection sociale.
Check-up santé sur BFM Business.
Frédéric Bizard, bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Je suis toujours ravi de vous retrouver sur le plateau de Check-up Santé. Vous êtes économiste spécialiste santé et protection sociale. Vous enseignez à ESCP Business School, à Dauphine, et vous êtes président de l'Institut Santé. C'est vrai que je disais dans mon introduction, vous êtes le troublion un petit peu du domaine de l'économie santé, parce que vous dites un petit peu ce que vous pensez, et c'est pas toujours le cas.
Je pense surtout depuis de nombreuses années qu'il faut repenser le système, ce qui n'a pas été partagé pendant de nombreuses années. Je suis heureux de voir qu'aujourd'hui,
mais on est à un niveau là où il faut rentrer dans le lard maintenant.
Voilà.
On est à ce niveau-là, non ?
Oui, parce que le modèle n'est plus du tout adapté avec son environnement, mais on va y venir.
Alors justement, est-ce que vous pensez franchement que notre vieux système de santé risque d'imploser ces prochaines années ?
Alors, d'abord, le système de santé, il a été extraordinairement bien pensé pour gérer le monde du XXe siècle, d'une population relativement jeune, de pathologies plutôt aiguës, où on avait relativement peu de solutions et où il n'y avait pas tant d'innovations technologiques que ça, et où il y avait une croissance économique très importante qui permettait d'avoir un budget qui augmente de 4, 5, 6, 7 % sans problème. Bon, évidemment, ce monde-là est révolu. Donc, le système qui a été pensé pour s'occuper juste des personnes malades, sans s'occuper du maintien en bonne santé, qui n'a pas été pensé pour gérer des parcours de patients chroniques et qui n'a pas été pensé pour intégrer, ça a été très bien dit par Philippe Bertha, pour intégrer massivement, puisque c'est la priorité si on veut un système performant, les innovations technologiques et thérapeutiques.
Il
forcément, il est...
C'est pas adapté, il n'a pas su s'adapter.
Non, parce qu'on ne l'a pas adapté, c'est bien l'enjeu. Vous savez, c'est très intéressant la santé dans les présidentielles parce que c'est le juge de paix. Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à réformer. Il faut évidemment réformer plein de choses, l'État, mais dans le modèle social, vous ne passerez pas le prochain quinquennat si celui qui est élu ou celle qui est élue ne s'engage pas à réformer le système des retraites et le système de santé. C'est 80% des dépenses de la sécurité sociale. Le premier, parce que vous avez une population vieillissante et qui a été pensée là aussi dans un monde où vous aviez 4 actifs pour un inactif, là vous en avez 1,6 aujourd'hui.
Et on le retrouve dans le débat, on le retrouve de dans le débat? Il est présent dans le débat des
Alors,
candidats?
Les retraites, oui, parce que c'est plus simple.
Les retraites, oui. Hein,
vous avez trois paramètres. Dans la santé, non, parce que vous ne parlez que des sujets que vous maîtrisez bien. Vous imaginez quelqu'un parmi ceux qui la trentaine qui est là, aller lui dire, moi je vais transformer le système de santé. Et la deuxième question du journaliste, lui dire, mais monsieur, comment vous faites? Et être un petit peu vide parce qu'il y a un manque de... Donc personne n'a envie d'y aller parce qu'on a vécu dans un imaginaire d'un système de santé qui a été très bon, ça c'est pas un imaginaire, mais qui ne l'est plus, et on a essayé de poursuivre le récit de l'imaginaire en disant mais nous avons le meilleur système de santé du monde. Je rappelle que jusqu'au Covid, les, y compris les ministres de la santé, arrivaient et nous disaient nous avons le meilleur système de santé du monde.
Ouais. Et on n'a pas l'impression qu'on essaie plutôt que de redresser la France, on essaie d'éviter le pire?
Mais à défaut de le restructurer, oui. Hein, tout le monde, il y a que les gens sont. Moi, je pars du principe que les gens sont de bonne volonté, y compris les ministres de la Santé. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de faire tenir le système budgétairement. Regardez les lois de financement de sécurité sociale pour 2027. C'est quoi les enjeux, enfin les débats? Est-ce qu'on augmente? Est-ce qu'on double le plancher de la franchise? Est-ce que de combien est-ce qu'on diminue le taux de remboursement du dentaire? Donc, on va pas doubler, mais on va l'augmenter de 40%. Hop, ça fait 400 millions. Bon, comment je peux dérembourser un petit peu sans trop que ça se voit les soins dentaires? Donc on était à 70% il y a 3 ans, on est aujourd'hui à 50%, on fait passer de 60 à 70%, c'est 400 millions supplémentaires. Évidemment, la dépense ne disparaît pas, c'est un autre qui va la payer, cet autre c'est principalement les complémentaires santé et les ménages. Donc on n'a pas du tout le même mode de financement, puisque vous êtes dans un modèle régressif de financement, c'est-à-dire que les classes populaires et les classes moyennes ont un taux d'effort beaucoup plus important quand c'est leur assureur privé qui paye que quand c'est l'assureur public. Donc vous allez créer, encore une fois, plus d'inégalités dans l'accès aux soins et donc des non pas des refus, mais des incapacités à pouvoir aller se soigner. Donc, vous êtes dans un cercle vicieux. Troisième juste
une chance d'avoir un système hybride en France.
Non, c'est oui, c'est oui, votre maladie, question elle est très profonde. Pourquoi c'est une chance? C'est que nous on a décidé d'avoir un système solidaire et universel, c'est-à-dire que vous soyez riche ou pauvre, vous avez accès à la même offre de professionnels de santé, même offre de produits de santé. Donc vous avez une égalité des chances. Sauf que on a parlé d'égalité des chances une fois que vous êtes malade. Évidemment, comme on s'est pas occupé de l'amont pour le maintien en bonne santé, là vous avez un gradient social très fort, et quand vous les 10% les plus pauvres vivent 13 ans de moins en France que les 10% les plus riches. Donc ça, on le paye cher. Et on est dans le queue de peloton de l'Union européenne sur les paramètres d'inégalité sociale de santé. Donc il est urgent de repenser le système, pas simplement pour réduire les inégalités sociales, mais ça se suffirait à soi-même pour le faire, c'est-à-dire d'avoir un modèle global qui soit à la fois fort sur le maintien en bonne santé, c'est-à-dire qu'il faut faire de la santé publique. Tout ça, l'Institut Santé hein, l'a proposé le modèle, c'est prêt, hein, c'est prêt à l'emploi. Et puis un modèle, évidemment, qui reste fort sur le soin. Votre point sur les hybrides, il est très important, c'est que pour que tout le monde ait accès et une liberté de choix, hein, notre système, il est républicain, liberté, égalité des chances et fraternité. Il faut que le médecin ou l'infirmier ou le kinésithérapeute, quel que soit son mode d'exercice, soit accessible à tout le monde. Il peut être en libéral, il peut être salarié du privé, il peut être fonctionnaire. Il faut que chacun d'entre nous puisse y avoir accès. Donc vous voyez qu'il faut dépasser les statuts, et on a du mal à ça parce qu'on oppose l'un à l'autre pour des raisons historiques. Il y a eu d'abord l'exercice libéral et ensuite les hôpitaux publics avec le salariat qui est arrivé après. Et on sait bien qu'il y a des guéguerres qu'il faut surpasser.
Alors, on sait, évidemment, la santé coûte de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que les maladies chroniques, parce que l'espérance de vie, parce que les médicaments coûtent plus cher. On peut pas faire autrement. Sauf qu'on pourrait, justement, en amont, vous en avez parlé, on pourrait, justement, améliorer le côté préventif.
Alors, il y a un... Le modèle économique, mais c'est pas le seul, j'entendais beaucoup les...
Alors qu'on est les derniers de l'OCDE sur la prévention.
J'entendais, pendant ces vacances, sur les feux qu'il y a eu, les pompiers nous parlaient un peu de leurs problèmes. Ils se disent, on est complètement dépassé dans un monde où on va avoir un risque d'incendie qui a été multiplié par 10. Penser qu'il suffit qu'on attende que les incendies se déclenchent pour le faire, si on n'a pas une politique de prévention, eh bien c'est exactement pareil en matière de santé.
Et ça coûte très moins cher.
Pensez...
si on était moins malade.
Ouais. Pensez, non mais c'est simple. Aujourd'hui, vous avez plus de 14 millions de Français qui ont une ou plusieurs affections de longue durée, 20% de la population. C'était 5% il y a 30 ans. Il y avait une hausse de 200 000 dans les années 2000. Ensuite, de 200 000 personnes qui avaient une ou plusieurs affections de longue durée en plus dans ce stock-là. Dans les années 2010, c'était 300 000. Depuis 2020, c'est 400 000. D'accord ? Donc, on va avoir 25% de la population qui va consommer en moyenne à peu près 10 000 euros de dépenses publiques. Donc, le système est en train d'imploser. On ne pourra pas financer tout ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en santé pour se dire comment je rends le système soutenable. Est-ce que c'est possible ? C'est-à-dire, est-ce que j'investis en amont ? On appelle ça investir dans le capital humain en santé. C'est exactement ce qu'on a fait en 2018 pour la formation professionnelle, où on s'est dit, il faut qu'on arrête de se concentrer uniquement sur l'assurance chômage, il faut qu'on aille sur la formation professionnelle. Oui, c'est pas plus compliqué que ça, et ça a marché. Donc, ça marche dans plein d'autres pays, hein. Je rappelle qu'on n'est pas les seuls à avoir une population vieillissante. Mais nous n'avons ni culture de santé publique, mais ça s'acquiert, et surtout, pas un système qui est pensé sur un plan institutionnel, santé publique. Le ministère de Ségur, de la Santé, c'est un ministère purement de soins. Mmh. On a une agence Santé publique France qui est une micro-agence avec des gens formidables, mais qui a un manque de moyens parce qu'on met tout sur le curatif. Donc vous voyez, les réformes qu'il faut faire, c'est évidemment inverser ça. Évidemment qu'il nous faut toujours du soin et être performant. Mais si on n'est pas performant sur l'amont, sur la santé publique, le maintien en bonne santé, le système implose. Il y a autre chose aussi.
Mais il faut quoi ? Il faut du courage, de l'intelligence, de la lucidité, des moyens.
Oui. Il faut, vous savez, c'est Jaurès qui dit une phrase que je trouve importante. C'est quoi le courage ? Vous dites du courage. C'est quoi le courage ? Jaurès dit, le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire. Quand vous entendrez quelqu'un sur un plateau vous dire, bon, la santé c'est bien, mais on est quand même bon. Ok, on se plaint beaucoup, mais quand même on est bon. Qu'est quand même ce que pensent 90% des choses. Ils ont bien conscience qu'il y a un malaise, mais globalement ils se disent ça va, il y a plus grave. Bon, eh bien non. Aujourd'hui, parce que la santé c'est un enjeu social, c'est un enjeu économique majeur, c'est un facteur de productivité, si vous voulez, la santé. Enfin, tous les autres pays le savent. Quand vous me dites ça coûte cher, non, je vous assure, une population qui est en bonne santé globale ou dont on optimise l'état de santé, c'est entre 0,2 et 0,5 points de PIB.
Si on intervient en amont.
Si on intervient en amont. Mais en aval, il y a aussi une chose qui est très importante. On est très en retard dans les technologies innovantes. Regardez le numérique en santé. En France, vous savez que le carnet de santé des enfants, il est sorti version papier en janvier 2026 de la CNAM. Mm-hmm. Donc vous voyez qu'il est urgent d'utiliser le numérique à lire.
Frédéric, on pourrait parler des heures. Il faut absolument que vous reveniez.
Avec plaisir.
Ah, on va vous consacrer toute une émission. On pourrait parler des heures avec vous. Merci, Frédéric.
Merci à vous.
On va finir avec Rémi Teston, patron de Buzz e-Santé.
Check-up santé sur BFM Business.
Rémi Teston, bonjour.
Bonjour Fabien.
Et bienvenue à nouveau pour la 250e fois dans Check-up Santé.
Un plaisir.
On va démarrer rapidement. La Haute Autorité de Santé, elle démarre une nouvelle ère, non, dans l'évaluation ?
Exactement. Ils ont créé une nouvelle direction qui s'appelle la MIMED.
Pour
tout ce qui est méthodologie, tout ce qui est accompagnement, finalement, dans l'évaluation aujourd'hui des technologies de santé. Donc, pas que du numérique, évidemment. Tout ce qui est aussi autour des essais cliniques, de tout ce qui arrive aussi de l'Europe de la donnée, avec cette volonté aussi d'intégrer de plus en plus dans l'évaluation les données de vie réelle, et donc être au plus près finalement des usages réels des solutions proposées.
Et ça, c'est une véritable avancée ?
C'est une avancée, en tout cas l'HAS fait beaucoup de travaux aujourd'hui pour être autour de tout ce qui se passe autour du numérique santé. On a vu avec les travaux faits autour de l'IA, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au sein de cette...
Bon, on salue Lionel Collet.
Avec plaisir.
Alors, Anthropic veut développer ses propres médicaments.
Exactement.
Incroyable.
Donc, juste avant l'été, ils ont annoncé la sortie déjà d'une solution qui s'appelle Cloud Science, où là, c'est pour accompagner la recherche. C'est toute une suite, finalement, d'outils d'IA générative. Mais ils ont annoncé vouloir aller plus loin et pouvoir proposer eux-mêmes leurs candidats médicaments.
De façon tout à fait autonome. Hein,
voilà,
sans
exactement.
Sans passer par l'industrie,
en utilisant uniquement les outils technologiques qu'ils ont développés. Alors là où c'est encore un peu flou, c'est sûr, est-ce qu'ils veulent aller après même jusqu'à la production ou pas ? Ou est-ce qu'ils veulent accompagner au final la R&D pharmaceutique ?
Autre sujet, c'est l'apnée du sommeil, qui est sous-diagnostiqué en France et qui est, un véritable facteur de risque cardiovasculaire.
Exactement, et donc parmi les acteurs qui s'intéressent au sujet, il y a Samsung, qui, on l'avait annoncé il y a quelques temps, ont lancé une bague connectée qui s'appelle la Galaxy Ring et qui intègre une fonctionnalité de détection des risques d'apnée du sommeil et qui a été validée par la FDA. Donc c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Alors c'est bien de la détection, pas du diagnostic, évidemment, mais en tout cas avec l'oxygénation du sang, avec les mouvements au cours de la nuit, on arrive à détecter finalement les risques de potentielle apnée et d'autres acteurs se lancent sur le marché. Hein. Vous avez Weezing, vous avez aussi Apple, etc.
Très rapidement, donc la téléconsultation, c'est l'âge de la maturité ?
Exactement, il y a un décret qui est passé au cours de l'été qui encadre davantage finalement les sociétés de téléconsultation. Donc c'est, on va vers plus de qualité, plus d'intégration dans le parcours de santé et donc un meilleur bénéfice de ces outils-là au service des patients.
Et pour finir, la start-up du mois ?
Donc la start-up, c'est Poppins qui travaille autour de la dyslexie pour les enfants de 7 à 11 ans et qui a obtenu un remboursement pour sa thérapie numérique. Et donc ça, c'est une vraie avancée aujourd'hui. C'est la deuxième thérapie numérique validée au cours des derniers mois. Donc il y a un vrai décollage de ce marché. En tout cas, c'est un sujet aussi qui n'est pas forcément beaucoup abordé, tout ce qui est autour des 10. Et donc ça permet du coup d'avoir une solution à disposition des parents et des enfants.
Merci beaucoup. Merci Rémi. On se revoit évidemment très bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
Check-up santé sur BFM Business.